Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Après les États-Unis au mois de novembre 2020, c'est au tour de la Grande-Bretagne d'imposer un train de sanctions à l'encontre de la milice Kanyat qui, durant 5 ans, a fait régner un véritable régime de terreur à Tarouna. Des actes absolument épouvantables ont lieu, des actes de torture, des assassinats d'innocents. Le gel des avoirs des membres de cette milice a été décidé, des interdictions de voyage à l'encontre de 2 de ses dirigeants. Ce sont en fait 5 frères, les frères Al-Kani, qui donc pendant 5 ans ont fait régner un régime absolument dictatorial avec des défilés militaires aussi, avec beaucoup d'argent qui a été gagné en faisant du trafic de migrants clandestins qui essayaient de traverser la Libye pour rejoindre l'Europe. Et il n'en reste pas moins qu'ils sont tombés sous les fourches codines du clan Al-Kani. Face aux monstruosités qui ont été faites par ce groupe libyen, l'Angleterre ainsi que les États-Unis ont donc décidé ce train de sanctions. Justice, mais également économie, reconstruction du pays. Le représentant de la Libye aux Nations Unies a rencontré son homologue égyptien. C'est une réunion technique intéressante parce que le but est de donner de la continuité à ces initiatives qui ont été prises par le Caire, qui est très intéressé par le chantier de la reconstruction de la Libye. Il y a des projets de facilitation pour que des ouvriers égyptiens puissent venir travailler en Libye, est, ouest, sud, peu importe, mais en tout cas, on sent que les deux pays ont envie de travailler ensemble sur cet immense chantier de la reconstruction. Alors ça va sur les routes, les immeubles, les infrastructures, les activités de services, le commerce, etc. Il y a beaucoup de choses à faire et les Égyptiens veulent vraiment se placer pour être présents lorsque le chantier de la reconstruction commencera. Beaucoup d'interrogations après ce communiqué laconique en provenance du palais de Carthage à Tunis. Donc officiellement, on apprend que le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, ont échangé des vœux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr lors d'un appel téléphonique. Alors quand on sait ce qu'est la dégradation de la relation entre les deux hommes, faut-il y voir une reprise des contacts, sachant que leurs relations sont pratiquement gelées depuis plusieurs mois? Est-ce qu'il en est ainsi? Les relations donc entre les deux têtes de l'exécutif sont donc rompues. Le président reproche à celui qui a pourtant nommé Premier ministre de s'être retourné contre lui et de s'allier à ses adversaires politiques, notamment le parti Ennahda, ses alliés de Khaltounès ainsi de Al-Karama. Est-ce qu'il y a donc réchauffement? Est-ce que la fâcherie pourrait être derrière eux? C'est une question qui se pose puisqu'il y a beaucoup de demandes qui sont formulées aujourd'hui envers l'exécutif tunisien qui est toujours bicéphale, va-t-on dire, le président d'un côté, le premier ministre de l'autre. Les prochaines semaines nous en diront plus sur le réchauffement ou pas qui pourrait s'opérer à Tunis. Et signalons toujours au sujet de la Tunisie, mais là sur le volet sanitaire, que la porte-parole du gouvernement, Asna Ben Slimane, annonce une dérogation au confinement obligatoire. On sait que cette semaine, on s'en souvient, hein, beaucoup de mesures ont été prises, en tout cas annoncées par l'État tunisien, des restrictions de mobilité, des règles de confinement pour empêcher la propagation de coronavirus. Officiellement, il s'agissait de restreindre les mobilités pour donc pouvoir répondre à l'urgence sanitaire. De facto, on a surtout assisté à des actes de désobéissance civile, alors soit les cafetiers par exemple qui refusaient de ne pas réouvrir leurs activités commerciales après le ftour, ou encore des personnes qui passaient d'un gouvernorat à un autre gouvernorat. En fait, cette dérogation vise à autoriser, bon, ce qui est un petit peu le cas de fait, à autoriser les citoyens à se déplacer d'un gouvernorat à l'autre, ou encore de prendre le bus, le train, etc. Donc apporter un peu d'apaisement politique à une situation pandémique qui est toujours très préoccupante en Tunisie. bonne nouvelle en Algérie. Le ministre de la Santé a donné ses instructions pour permettre aux ressortissants algériens et étrangers, les autorisés, à rentrer, à venir dans le pays. Alors ceci dans un cadre sanitaire extrêmement strict. Les personnes qui entreront en Algérie devront présenter un test PCR de moins de 36 heures et se soumettre à des tests qui auront été estimés fiables par les autorités sanitaires algériennes. Les sujets qui sont négatifs seront autorisés à entrer. Ils devront en revanche être soumis à un confinement de 10 jours. Telles sont les décisions qui ont été prises par le ministre de la Santé. Pour l'instant, on ne dispose pas encore de date pour l'entrée en vigueur de ces dispositions. En France, a signalé que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a décidé de ne pas accorder d'autorisation aux manifestations de soutien au peuple palestinien qui étaient prévues à la fois pour ce vendredi, mais également d'autres mouvements ici et là en France, parfois de moindre importance, mais des mouvements tout de même qui existaient. L'idée générale des autorités françaises est de se mettre à l'abri de possibles débordements. On se souvient qu'il y a de cela quelques années, des manifestations pro-palestiniennes avaient dévié en des mouvements qui saccageaient des lieux publics qui n'avaient absolument rien à voir avec la cause palestinienne. Donc si politique il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction, mais c'est vrai que ce qui est à craindre par rapport aux événements et aux ressentis du ministère français de l'Intérieur, eh bien, c'est qu'il y ait ces débordements qui seraient tout à fait inconvenants et totalement décalés par rapport à la problématique palestinienne, d'où cette décision de Paris. Guerre civile en Syrie. Nous allons en Syrie aujourd'hui. Alors peut-être que l'armée russe exagère un peu, on ne sait pas exactement, puisque nous n'étions pas dans les avions de chasse qui ont ouvert le feu sur les groupes radicaux. Mais en tout cas, l'armée russe annonce avoir tué plus de 300 terroristes en Syrie, et ceci en l'espace de 2 semaines. Alors c'est vrai que quand on observe attentivement la situation sécuritaire, l'aviation russe est extrêmement engagée dans la traque des dernières poches résiduelles du groupe État islamique qui sont toujours opérantes à l'ouest de la vallée de l'Euphrate, ainsi que dans cette grande zone désertique qui sépare la Syrie de l'Irak. Ces sorties aériennes se chiffrent parfois par dizaines, parfois même par centaines sur le temps de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc en tout cas, il y a véritablement ce combat qui est mené avec les autorités de Damas qui, elles aussi, sont mobilisées dans la lutte contre le groupe État islamique qui avait, dans les années 2014, 2015, 2016, 2017, semé la terreur, notamment dans le nord du pays. Donc Damas mobilisé, mais c'est vrai que les Russes sont devant, ils font le travail. Alors c'est une mobilisation qui est tout à fait permanente. On pourrait se dire, mais que fait la coalition internationale qui, après la proclamation du pseudo-califat du groupe État islamique, avait été très active dans sa lutte contre la territorialisation du groupe État islamique, hein. Les grandes défaites de Daesh, qui se faisait appeler ainsi à l'époque, c'était la coalition internationale, Raqqa, il y avait eu aussi Mossoul, bon là c'était en Irak, mais les grandes défaites qui ont été celles de Daesh ont souvent été menées par la coalition internationale, mais dans cette après-coalition, ce sont les forces aériennes russes ainsi que les forces spéciales qui mènent le travail. Aujourd'hui, elles ont repris le flambeau de la lutte contre le groupe État islamique.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.